Vous êtes avec SBS French.
À la une de l'actualité de ce samedi 8 janvier, le cap du million d'Australiens atteints du Covid-19 en passe d'être atteint dès lundi. À mesure que les cas augmentent, les restrictions se durcissent à travers les États et les tests rapides antigéniques ont désormais la même valeur que les tests PCR. Emmanuel Macron persiste et signe, le président français dit assumer totalement ses propos sur les personnes non vaccinées, sans pour autant les réitérer. C'était il y a 7 ans et un jour, les attentats sanglants dans les locaux du journal satirique Charlie Hebdo. 12 personnes assassinées, un hommage intime et privé leur a été rendu à Paris. Et plusieurs jours de violence et des dizaines de morts au Kazakhstan, la discussion entre le pouvoir et les manifestants semble impossible, surtout que le président autorise la police à tirer à vue. Et enfin en sport, Novak Djokovic toujours à l'isolement dans un hôtel de détention pour demandeurs d'asile à Melbourne. On fera le point sur la situation dans le journal des sports. On commence ce journal par l'épidémie de coronavirus. Alors que la Nouvelle-Galles du Sud enregistre un nouveau record quotidien avec plus de 45 000 infections en 24 heures et 9 décès, l'État a décidé de réintroduire certaines restrictions. Parmi celles à retenir, il est interdit de chanter et danser dans les bars et restaurants jusqu'à la fin du mois. Les chirurgies considérées comme non urgentes sont suspendues jusqu'à minimum mi-février. Le booster, c'est-à-dire la troisième dose de vaccin, est obligatoire pour les travailleurs de première ligne, notamment les enseignants et les infirmiers. Et enfin, les résultats des tests rapides antigéniques sont désormais comptabilisés dans les chiffres quotidiens et ont même valeur que les tests PCR. On écoute à ce propos le premier de la Nouvelle-Galles du Sud, Dominique Perrottet.
What we would say to people today as we move through this period, that if you do receive a positive rapid antigen test, that you register that through Service New South Wales and New South Wales Health. New South Wales Health and Service New South Wales have been working on and will be available next week, by mid-next week, a system that if you do have a positive rapid antigen test, that you treat that as if it was a positive PCR test and that you isolate in accordance with the rules that are in place.
Toujours à propos des tests rapides antigéniques, désormais au même rang que les tests PCR, les généralistes tirent la sonnette d'alarme. Alors que Scott Morrison demande aux Australiens de téléphoner à leur médecin si leur résultat de test antigénique est positif, les docteurs, eux, appellent le gouvernement fédéral à très rapidement mettre en place un système automatisé pour enregistrer ces données. Ils craignent de ne pas pouvoir gérer l'afflux d'appels et demandent des moyens supplémentaires. On écoute Charlotte Espy, directrice du Collège de la Nouvelle-Galles du Sud et de Canberra.
I think there's both the sense of, okay, I've got a positive test, so you can now link me into the system, which of course at this point in time there is no system to be linked into. We know what happened when there was just the sort of the vaccination debacle in terms of go ring your GP and nobody was ready and the phone lines all collapsed. And pretty much from what I can gather, hearing around the traps, that's pretty much what's happening.
De son côté, le Victoria a mis en place son propre système, une ligne téléphonique étatique pouvant recevoir jusqu'à 50 000 déclarations de tests positifs par jour. Pour Jérôme Weimar, le monsieur Covid-19 du Victoria, le but est de guider au mieux les patients positifs.
What it will mean is that we'll be able to give you ongoing updates and check in with you on your condition and to make sure you get access to the COVID care through our primary and hospital healthcare systems. We're also, of course, in conversations with the Commonwealth to ensure that anybody who returns a positive rapid antigen test result and logs that result through the system can also access the pandemic leave payments, and we'll continue those conversations over the coming days.
Le Victoria, qui enregistre plus de 51 000 nouveaux cas ces dernières 24 heures, résultats basés sur les résultats des tests PCR et également pour la première fois des tests rapides antigéniques. Et ces fameux tests rapides justement qui font l'objet d'une polémique croissante depuis plusieurs jours, déjà parce qu'il est très difficile d'en trouver, mais aussi parce qu'ils sont chers et que leur prix varie d'un magasin à un autre, eh bien sachez que le tarif est désormais encadré. Les revendeurs qui tenteraient de majorer les kits de plus de 20% du prix encadré encourent depuis ce matin 66 000 $ d'amende et jusqu'à 5 ans de prison. Alors voilà pour ce qui est des tests rapides antigéniques. Si l'on revient à la situation épidémique en Australie par État, sachez qu'à Canberra également, il est désormais interdit de danser ou de manger debout dans les restaurants, bars et cafés. Les boîtes de nuit restent ouvertes, mais seulement pour servir des boissons, comme un bar donc, et les chirurgies électives sont là aussi déprogrammées. Dans le Queensland, la rentrée scolaire pourrait être reportée de 2 semaines, le gouvernement d'État se préparant à une hausse encore exponentielle du nombre de cas. Hier, 11 000 nouvelles infections ont été enregistrées, 313 personnes hospitalisées, dont 14 en soins intensifs. La première, Anastasia Palaché, encourage les habitants à travailler depuis chez eux, à éviter les interactions sociales pour les 6 prochaines semaines et s'adresse directement aux parents concernant leurs enfants. Écoutez.
We are looking at a 1 to 2 week delay in relation to the return to school. We will give you more concrete decisions on this over the coming days. But I just want to assure parents that that is definitely not on the agenda to send primary school children unvaccinated to school if we are in the peak of this wave. This is a common sense measure.
La Tasmanie a elle aussi publié ses données quotidiennes, 2223 nouvelles infections en 24 heures. Ce chiffre correspond à 50% de tests PCR et 50% de tests rapides antigéniques. Et les territoires du Nord enregistrent, eux, 594 nouveaux cas. Politique française à présent, et Emmanuel Macron dit assumer totalement ses déclarations sur les personnes non vaccinées. On le rappelle, le président avait dit vouloir les emmerder jusqu'au bout, je cite bien sûr. Eh bien, le chef de l'État persiste et signe. Il a donné hier une conférence de presse à Bruxelles avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, Valérie Gass.
Emmanuel Macron reste droit dans ses bottes, même s'il s'explique sur un ton très calme. Sur le fond, le président affiche une grande fermeté.
On peut s'émouvoir sur des formes d'expression qui paraissent familières, que j'assume totalement. Moi, je m'émeus de la situation dans laquelle nous sommes. La vraie fracture du pays est là. Quand certains font de leur liberté, qui devient une irresponsabilité, un slogan, non seulement ils mettent en danger la vie des autres, mais ils restreignent la liberté des autres.
Sans employer le même vocabulaire que dans son entretien avec les lecteurs du Parisien, Emmanuel Macron confirme sa stratégie vis-à-vis des non-vaccinés et la justifie en expliquant que les partenaires européens font la même chose.
C'est un mouvement complètement européen. Et qui fait quoi ? Qui met des restrictions sur les personnes qui ne sont pas vaccinées.
Emmanuel Macron revendique donc d'avoir tiré la sonnette d'alarme, une explication de texte dans laquelle le chef de l'État a reçu le soutien de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.
La liberté est toujours combinée avec la responsabilité. Et un gouvernement doit protéger également, c'est-à-dire le pass vaccinal est une forme de protection, un instrument que bien sûr le gouvernement peut utiliser.
À défaut de partager les mots, les deux responsables partagent les objectifs et les moyens.
Alors qu'elle effectuait son premier déplacement de l'année à Béziers, dans la ville de Robert Ménard, qui lui offre son parrainage pour la présidentielle, Marine Le Pen s'en est directement pris à Emmanuel Macron et son entrée en campagne déguisée.
Est-ce qu'Emmanuel Macron se sert de la crise sanitaire pour entrer en campagne ? La réponse est oui. Incontestablement oui, et je pense que l'article du Parisien le démontre, car le ton qu'il prend, n'étant pas du tout un ton de président, on ne peut qu'en conclure que c'est un ton de candidat. Donc faire campagne sur la crise sanitaire, est-ce que c'est utile ? Réponse non. Est-ce que c'est efficace ? Je crois, réponse non, parce que il y a derrière des problèmes auxquels il faut apporter des réponses, et ces problèmes n'ont pas disparu. Et si on ne pousse pas par notre capacité à mettre ces sujets sur la table, les Français à s'en saisir, eh bien, ils auront des lendemains qui déchantent, parce que quand la crise sanitaire sera passée, et elle passera bien sûr, quand elle sera passée, eh bien, il restera le problème du chômage, il restera le problème de l'aménagement du territoire, il restera le problème de l'insécurité, il restera le problème de l'anarchie migratoire, le problème du pouvoir d'achat. Et ça, ce sont des sujets dont nous devons de parler comme candidat à la présidentielle.
Plusieurs manifestations nationales sont organisées ce samedi en France contre le pass sanitaire et le pass vaccinal. Les autorités anticipent un rebond du nombre de participants. Il pourrait y avoir 40 000 personnes dans les rues contre 25 000 comptabilisées par la police en moyenne avant Noël. Marie Casadebé.
Il y a d'abord le projet de loi examiné cette semaine par l'Assemblée nationale et à partir de lundi par le Sénat qui pourrait imposer aux Français un pass vaccinal dès la mi-janvier. Il ne suffira plus de présenter un test négatif pour aller au restaurant, au cinéma ou encore à la piscine, mais bien un schéma vaccinal complet avec son lot d'exceptions évidemment. Le projet a ses opposants, ceux qui refusent d'être vaccinés, mais aussi ceux qui refusent le principe d'une obligation de fait de la vaccination pour poursuivre une vie normale. Et puis en plein examen, l'examen de ce projet de loi, il y a les propos polémiques d'Emmanuel Macron dans la presse mercredi. Le président de la République disait avoir envie d'emmerder les non-vaccinés, les qualifiant d'irresponsables. Près de 5,5 millions de personnes ont pu se sentir visées, tous les Français qui n'ont pas reçu leurs deux doses. Cela pourrait faire du monde ce samedi dans la rue.
C'était il y a 7 ans, le 7 janvier 2015 à Paris, 12 personnes étaient abattues dans les locaux de Charlie Hebdo. Un hommage a été rendu devant les anciens locaux du journal satirique, hommage fermé au public. Seuls étaient conviées les familles des victimes, les anciens collègues et des personnalités politiques. On écoute le témoignage de ce journaliste qui a préféré rester anonyme.
C'est l'écho que ça a au-delà d'ici qui est important. C'est qu'on en parle encore ailleurs, qu'on en parle aux plus jeunes, dans les écoles, etc., etc. C'est ça qui est important. Et du coup, c'est important pour la liberté d'expression et la liberté de la presse d'être là aujourd'hui. Voilà, parce que c'est important, c'est un de nos droits élémentaires et c'est important que ça continue à vivre. C'est un écho particulier avec le combat pour la laïcité aussi. C'est essentiel, voilà, comme c'est toujours clivant aujourd'hui ces questions-là, c'est important de rappeler qu'on est là aussi dans un état de droit qui défend ces valeurs-là.
L'actualité au Kazakhstan, où les émeutes se sont calmées, mais où le calme est encore très précaire. Le président Kassym-Jomart Tokayev refuse toute négociation avec les manifestants, malgré les appels de la communauté internationale, et autorise les forces de l'ordre à tirer à vue. Une situation chaotique que raconte le journaliste Raoul Ouparov, que RFI a réussi à joindre à Oural, dans le nord du pays.
Les gens essaient d'avoir de l'argent liquide. Tous les transferts bancaires sont stoppés, les distributeurs sont vides. C'est la même situation presque partout au Kazakhstan. Hier, j'ai parlé avec un ami de la capitale, Astana. Et là aussi, il n'y a plus d'argent. Il fait ses courses en promettant de payer plus tard. Il achète beaucoup de pain. J'ai appelé mes amis à Almaty. Certains habitent en banlieue, d'autres dans différents quartiers de la ville. De chez eux, ils entendaient cette nuit et ce matin encore des rafales de tirs. Ce n'est plus juste des grenades assourdissantes utilisées au début, mais de vraies rafales. Cette situation est un vrai chaos. Il y a des voitures brûlées, des magasins, des vitrines cassées. Qui tire? Est-ce que ce sont les militaires, les bandits? On ne peut pas le dire, on ne comprend rien. C'est un pur chaos.
Et dans une allocution télévisée, Kassym-Jomart Tokayev a remercié tout spécialement son ami et allié Vladimir Poutine pour son aide après l'arrivée sur place d'un contingent de troupes russes et d'autres pays alliés de Moscou venus pour soutenir le pouvoir. La Russie, justement au cœur des discussions à Bruxelles entre les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN, à deux jours des pourparlers entre Russes et Américains sur la situation à la frontière ukrainienne, les membres de l'Alliance Atlantique tentent de s'entendre sur une position commune. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken accuse la Russie d'amasser des dizaines de milliers de soldats à la frontière avec l'Ukraine en vue d'une invasion. On l'écoute.
No one should be surprised if Russia instigates a provocation or incident. Then tries to use it to justify military intervention, hoping that by the time the world realizes the ruse, it'll be too late. The idea that Ukraine is the aggressor in this situation is absurd.
Aux États-Unis, la prison à vie pour les trois Américains blancs poursuivis pour avoir abattu un jogger noir en février 2020 en Géorgie. Greg et Travis McMichael, père et fils, avaient attrapé leurs armes et poursuivi en pick-up Armaud Arbery, 25 ans, qui était en train de faire son jogging. Ils affirmaient avoir soupçonné le jeune homme d'être un cambrioleur. Leur voisin William Roddy Bryan les avait rejoints pour filmer la scène. Seul ce dernier pourra demander une liberté conditionnelle au bout de 30 ans d'emprisonnement. Jasmine Arbery est la sœur d'Armaud. Juste avant le verdict, elle s'était exprimée devant la cour et avait appelé les juges à ne faire preuve d'aucune clémence. On l'écoute.
He was robbed of his life pleasures, big and small. He would never be able to fulfill his professional dreams. Nor he'd be able to start a family or even be a part of my daughter's life. The loss of Ahmaud has devastated me and my family. So I'm asking that the man that killed him be given the maximum sentence available to the court.
Le procès de 14 étudiants s'est ouvert devant un tribunal d'Istanbul en Turquie. Il y a un an, les accusés avaient participé à des manifestations contre la nomination d'un recteur à la tête de l'université du Bosphore, un établissement public de renom, un recteur proche du président Recep Tayyip Erdogan. Le chef de l'État turc avait qualifié ces protestataires de terroristes, mais ils ont finalement tous été libérés à l'issue du premier jour d'audience. À Istanbul, la correspondance de Anne Andlauer.
Quand ce n'est pas sur le campus, c'est ici, devant le palais de justice, que des étudiants de l'université du Bosphore, Boazici, dénoncent la prise de contrôle de leur établissement par le pouvoir politique. Depuis un an, ils réclament le départ du recteur nommé par le président Erdogan et l'élection d'un remplaçant par le personnel enseignant. Melike, étudiante en deuxième année.
Il n'y a pas que Boazici, toutes les universités sont sous tutelle. Nous lutterons pour des universités libres et autonomes.
Depuis le début de la protestation, des centaines d'étudiants ont été placés en garde à vue et une douzaine d'enseignants qui les soutiennent ont été licenciés. Parmi eux, Feyzi Erçin, qui enseignait le cinéma.
Dans les établissements, la liberté n'est plus qu'un souvenir. L'autocensure s'est généralisée. Nous sommes face à un système qui tente de criminaliser toute forme de manifestation pacifique.
Même si la manifestation rassemble tout au plus une centaine de personnes, Mertz, étudiant en psychologie, se dit de plus en plus optimiste.
Je sens monter une résistance à travers le pays. Cela ne se manifeste pas forcément sous la forme d'un grand mouvement de protestation ou de manifestation dans la rue, mais les voix d'opposition sont de plus en plus nombreuses. Le pouvoir est affaibli et je pense qu'une alternance est possible aux prochaines élections.
Recep Tayyip Erdogan et son parti affronteront de nouveau les urnes en juin 2023 au plus tard.
Un regard sur votre météo du jour. Perth, il fera soleil et 34 degrés. Adélaïde, nuageux, 25 degrés. Melbourne, averse avec 21 degrés. Hobart, en Tasmanie, averse et 17 degrés. Canberra, Sydney, Brisbane, pluvieux, comptez 28-29 degrés. Cairns, de la pluie aussi, mais 34 degrés. Même température à Darwin, mais du soleil. Le rappel des principaux titres de l'actualité. Le cap du million d'Australiens atteints du Covid-19 en passe d'être atteint dès lundi et les tests rapides antigéniques ont désormais la même valeur que les tests PCR. Emmanuel Macron persiste et signe. Le président français dit assumer totalement ses propos sur les personnes non vaccinées sans pour autant les réitérer. Et plusieurs jours de violence et des dizaines de morts au Kazakhstan. La discussion entre pouvoir et manifestants semble impossible. Le président autorise la police à tirer à vue.
Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
C'est la fin de ce journal, merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve dans un instant pour le journal des sports. On va parler de Novak Djokovic, bien sûr. À tout de suite. Le journal des sports et Novak Djokovic toujours à l'isolement au parc hôtel de Carlton à Melbourne. Le numéro 1 mondial attend une audience concernant son visa, une audience qui devrait se tenir lundi. Deux cas de figure, soit le joueur de tennis pourra rester en Australie et disputer l'Open, soit il devra repartir chez lui en Serbie. La Serbie justement est la famille de Novak Djokovic qui dénonce une maltraitance, des traitements inhumains, il parle d'emprisonnement et de nombreux fans manifestent depuis 3 jours au pied de l'hôtel.
No matter how this ends, Novak's name is part of the history of sport and the history of the world. All freedom-loving, free-thinking, normal people support him. He's a symbol of the present moment and a symbol for our future.
Mais si Novak Djokovic est retenu depuis jeudi, certains le sont depuis bien plus longtemps. Le parc hôtel est en effet un hôtel de détention dans lequel sont retenus des réfugiés et des demandeurs d'asile. Normalement dans l'ombre et dans l'indifférence générale, ces réfugiés accueillent aujourd'hui avec surprise tout cet intérêt des journalistes et des caméras au pied de leur chambre, peut-être avec amertume aussi. Ils espèrent que les projecteurs tournés vers Djokovic permettra de faire la lumière sur leur situation. Parmi ces demandeurs d'asile, il y a Mehdi, un Iranien détenu depuis 9 ans. On est donc bien loin des 2 jours. Il témoigne pour SBS.
And while Djokovic is here and suddenly people getting to know about what's going on about us. And to be honest, I find it kind of exciting. At the same time, I find it sad. I've been in detention for 9 years. Though I never committed no crime in my whole life. Though I've been a refugee by 2 countries and the UN itself. And just dozens of people are being held. It doesn't make sense. I cannot find no answer.
Et sachez que deux autres joueurs de tennis ont vu leur visa refusé, parmi eux la Tchèque Renata Voráčová. Elle est actuellement retenue dans le même hôtel que Mehdi et Novak Djokovic. On passe au football et l'Olympique de Marseille s'impose à Bordeaux en 20e journée de Ligue 1. Avec un but de l'attaquant Cengiz Under, l'OM remporte 1-0. Toujours en foot, 18e journée des championnats d'Allemagne, 2-1 pour le Borussia contre le Bayern Munich. En tennis, l'Australienne Ash Barty se qualifie pour les demi-finales internationales d'Adélaïde après une victoire en 2-7, 6-3, 6-4 contre Sofia Kenin. Ash Barty très en forme lors de ce match qui n'aura duré qu'une heure, 68 minutes exactement. On l'écoute.
It felt pretty good today. I think I was able to look after my service games pretty well, and it was a lot of fun playing out here again to get some more court time and start to feel a little bit better.
Direction Pékin à présent, où les Jeux Olympiques d'hiver commencent déjà dans moins d'un mois, le 4 février prochain. En attendant le coup d'envoi des festivités, pas question d'aller visiter les installations olympiques, elles ont toutes été mises sous cloche à cause du Covid. Et quand on dit sous cloche, c'est littéralement sous cloche. Les 3000 athlètes et membres des délégations vont être strictement isolés du reste de la population chinoise grâce à plusieurs bulles sanitaires. Il y a la bulle transport, la bulle hôtel, la bulle patinoire, la bulle piste de ski ou encore la bulle village olympique. Le comité a sévèrement durci les conditions de participation, être entièrement vacciné ou alors faire 3 semaines de quarantaine à l'arrivée, un test Covid tous les jours et pour les volontaires, une période d'isolement à la fin des Jeux. C'est l'heure de notre rétro sonore comme chaque samedi. Nous sommes le 8 janvier et le 8 janvier 1959, le général de Gaulle prenait ses fonctions de premier président de la 5e République. Il était revenu au pouvoir en mai 1958, alors que le régime de la 4e République menaçait de s'effondrer. Une nouvelle constitution, la 5e République, avait alors été adoptée par référendum. Charles de Gaulle en était devenu président. Le 8 janvier 1959, il entrait à l'Élysée. Il y restera 10 ans. C'est notre rétro sonore avec des archives de l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, et un extrait du documentaire « De Gaulle, notre président ».
L'heure de la 5e République. Le général de Gaulle, élu président de la République, entre à l'Élysée. Accueilli par le président René Coty, il va recevoir en présence des plus hautes autorités de l'État les insignes de cette charge où se rejoignent aujourd'hui toutes les responsabilités nationales. Le premier Français est aujourd'hui le premier en France, a dit en le recevant le président Coty.
C'est le jour anniversaire de la naissance de la 3e République qui a été choisie par le gouvernement du général de Gaulle pour date de naissance de la 5e. C'est place de la République où 100 travailleurs recevaient la Légion d'honneur que le général de Gaulle a proposé aux Français la nouvelle Constitution.
C'est dans la légalité que moi-même et mon gouvernement avons assumé le mandat exceptionnel d'établir un projet de Constitution nouvelle et de le soumettre à la décision du peuple.
Sur les quais de la Seine, 21 coups de canon saluent l'acte solennel que tout à l'heure va consacrer sous l'arc de l'étoile le silencieux salut des deux présidents à cette tombe qui symbolise la conscience du pays. L'homme du 18 juin, le président d'aujourd'hui que la France charge du poids de sa destinée.
Charles de Gaulle, cet homme qui disait n'appartenir à personne et appartenir à tout le monde, a régné plus de 10 ans à la tête de la République française. De 1958 à 1969, la présidence du général a transformé le pays et marquer la mémoire intime de ceux qui l'ont vécu. Placés aux premières loges, les collaborateurs du président de Gaulle s'en souviennent, comme on se souvient d'une histoire d'amour.
Le général a marqué ma vie. J'ai été en état de lévitation pendant tout le temps où j'ai travaillé pour lui.
Cet homme a un tel charisme, il a une telle honnêteté fondamentale, une telle courtoisie dans tous les gestes de tous les jours, et une telle autorité, parce que la courtoisie n'empêche pas l'autorité, que ça allait plus loin. On était donc, il y avait le cœur qui y participait au-delà de l'intelligence. Ça m'a frappé.
Dans quel poste, grand ou petit, celui qui est responsable a-t-il le droit de se dérober? D'ailleurs, qui a jamais cru que le général de Gaulle, étant appelé à la barre, devrait se contenter d'inaugurer les chrysanthèmes?
C'était le plus grand homme que j'avais connu et le seul grand homme que j'ai servi. Et je pensais que j'étais dans la situation, si vous voulez, des apprentis, des grands maîtres de la Renaissance, quand tous les grands peintres ont commencé à être des apprentis auprès des grands maîtres. Ça. Et moi, j'étais l'apprenti auprès du grand maître de la politique française, mais politique française entendue au sens fort, c'est-à-dire le sort politique de la France.
Du même coup, colombaient les deux églises, village hier sans histoire, devenait le centre de l'attention. Et la boisserie, où depuis 12 ans s'était retiré le général, était assiégée par une nuée de reporters. Téléphone et radio n'arrêtaient plus. Et ce soir-là, au terme d'une série de démarches, de discussions, de questions, de réponses et d'explications, Colombet apprit que le général était appelé à former le gouvernement.
En quoi consiste la constitution qui sera soumise à vos suffrages? Au nom de la France, je vous demande de répondre oui. Au-dessus des querelles politiques, qu'il existe un arbitre national élu par les citoyens qui ont un mandat public qui soit chargé d'assurer le fonctionnement régulier des institutions, qu'il existe un gouvernement qui soit fait pour gouverner, à qui on en laisse le temps et la possibilité. Voilà, Françaises, Français, de quoi s'inspire, en quoi consiste la Constitution.
C'est le retour triomphal à l'Élysée au milieu de cette foule parisienne qui n'a pas oublié 1944.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Eh bien, on a le plaisir d'avoir Ruben Alves avec nous. Ruben Alves, c'est eh bien le monsieur derrière ce film, Miss. Miss, c'est un film qui avait très bien marché au Festival du film français. Et là, il sort dans « in its own right », comme on dirait en anglais, tout seul comme un grand. C'est un film qui est vraiment extraordinaire. Bonjour et merci de nous donner un peu de temps. Je sais que c'est un peu précieux, vous travaillez en ce moment.
Oui, mais on a toujours du temps pour parler de son film et surtout voilà, à l'étranger et en Australie où c'est un pays en plus où je m'étais rendu pour mon premier film et que j'avais beaucoup apprécié. Voilà. Donc, je suis ravi d'être avec vous.
Alors, ce film, justement, Miss, racontez-nous un petit peu l'histoire parce que quand on lit comme ça entre les lignes, on peut se dire c'est incroyable, mais il y a tellement plus de profondeur dans ce film et c'est peut-être pour ça que ça a vraiment marqué au niveau du public australien parce qu'on l'a beaucoup rapproché d'un film australien comme Priscilla. C'est vrai que vous avez beaucoup parlé dans tout ce qui était promo de Billy Elliot ou de Little Miss Sunshine, mais c'est vrai que Priscilla aussi, c'est vraiment très proche de ça.
C'est vrai. C'est vrai aussi. En fait, Miss, il y a la petite histoire dans la grande histoire, c'est-à-dire que la grande histoire, c'est au fond, c'est avoir le courage d'être soi, en fait. Donc, c'est pouvoir assumer qui l'on est avec ses différences. Donc ça, je pense que c'est assez universel. Ça peut parler à beaucoup de monde. C'est transversal. Et puis voilà, après, la petite histoire, c'est ce rêve fou que ce petit garçon a depuis gamin, tout petit, voilà, que c'est d'être Miss France. Donc, du coup, il va tout faire pour réaliser son rêve. Donc voilà, c'est aussi une histoire de rêve, entre guillemets, de se dire que voilà, quand on les a, il faut se donner les moyens pour y accéder. Voilà, même s'ils paraissent complètement fous, complètement dingues. Et je pense que ça fait du bien aujourd'hui, dans notre époque où tout devient très, très ludique, très pragmatique. Voilà, il y a un côté, tout va très vite, et voilà. Et se permettre de rêver à un moment donné, je pense que c'est le rôle du cinéma. Et voilà. Et Miss, oui, ça englobe tout ça. Mais ça parle aussi de tous ces gens qui sont les désaxés de la société, voilà, qu'on met de côté, mais qui avec de la fraternité, vont de l'avant et s'entraident. Voilà, il y a pas mal de sujets dans ce film. Et puis, c'est surtout l'histoire d'une rencontre avec le personnage principal, qui est Alexandre Véter.
Là. Je voulais qu'on en parle justement parce que vous vous êtes rencontrés sur les réseaux sociaux, je crois. Si vous le suiviez sur les réseaux sociaux, et c'est comme ça que vous avez plus ou moins flashé sur lui et sur ce qui transpondait à travers ces réseaux sociaux.
Oui, tout à fait. Je le suivais pas en fait. Je cherchais un personnage comme ça pour un autre projet en fait que je n'ai pas fait au final. Et je cherchais, voilà, et je suis tombé sur le l'Instagram d'Alexandre et j'ai dit, mais oh, qu'est-ce que c'est que ce personnage, ce garçon qui fait toutes ses performances au féminin, mais c'est incroyable. Et donc, je l'ai rencontré. Et quand j'ai bu un café avec lui, j'étais fasciné, en fait, par en fait sa lumière. Il avait quelque chose de très lumineux, de très positif. Parce que je lui demandais, mais je dis, mais tu fais ça? Elle me dit, oui, c'est des performances. Je travaille mon féminin, ça me fait beaucoup de bien, j'aime beaucoup, je me sens plus fort quand je suis en femme en plus. Je lui dis, ah ouais, c'est incroyable, mais tu veux devenir une femme? Elle me dit, non, pas du tout. J'ai dit, ok, donc en fait, je me suis dit, c'est ça en fait que je veux mettre à l'écran. C'est ce destin-là, c'est ce personnage-là, c'est voilà. Qui paraît très complexe comme ça, mais je pense que c'est terriblement de notre époque. Voilà, c'est justement la question du genre, de se sentir bien dans un corps ou dans en osmose avec soi-même. Et du coup, voilà, tous ces points que je trouvais assez fascinants et très intéressants de voir au cinéma. Donc du coup, j'ai dit, écoute, banco, je suis venu voir mes producteurs. J'ai dit, j'ai rencontré quelqu'un. C'est incroyable. Il dit, oui, mais t'as un pitch. J'ai dit, non, pas encore. Et je l'ai revu et on a déjeuné ensemble. Et là, j'ai trouvé le pitch.
D'accord.
Je lui ai dit, qu'est-ce qui serait le plus dingue, en fait, pour un garçon comme toi d'accéder à sa féminité? Comment est-ce qu'on... Et de fil en aiguille, on parlait et il m'a dit la Marianne de France. J'ai dit, Marianne de France, c'est un peu compliqué quand même. Ouais. Et puis, du coup, j'ai dit Miss France. Il m'a regardé, il me fait, fais-moi une Miss France, Ruben. Alors voilà, et puis du coup, je suis arrivé voir mes producteurs et j'ai dit, c'est l'histoire d'un garçon qui a un rêve de devenir Miss France.
Parce qu'il y a ça aussi, il y a le fait qu'il se bat un peu dans la société au jour le jour pour se faire accepter, mais il y a aussi cette espèce de chape de plomb autour d'un événement comme Miss France qui est quand même, entre guillemets, un peu daté quand même l'intérêt général. Mais aujourd'hui, on peut se poser la question, en fait. On peut se la poser, la question. Et ça, c'est un peu le défi que vous êtes relevé sur ce film-là.
Oui, ça aussi, parce qu'effectivement, moi, je n'étais pas un grand fan de Miss France à la base. Hein. J'ai eu cette idée-là, saugrenue, je ne sais pas comment. Mais c'est vrai que ça remet quand même en question pas mal de choses, justement des codes de la société aujourd'hui, ce que renvoie ce concours qui paraît un peu obsolète. En même temps, moi, je suis allé frapper à leur porte et je leur ai demandé de l'aide dans le sens, est-ce que vous pouvez m'ouvrir les portes pour que je puisse regarder et écrire mon scénario? Et ils m'ont ouvert les bras vraiment. Et ça, déjà, je trouve que c'est une forme de modernité, justement, pour le coup, du comité, parce qu'ils m'ont dit, voilà, quand j'ai dit le pitch, c'est vrai qu'il y a eu un petit blanc, hein, quand j'ai dit c'est l'histoire d'un garçon qui veut devenir Miss France, ils m'ont regardé comme ça. Sylvie, elle a dit d'accord. Et en fait, voilà, ils ont été hyper coopératifs, ils m'ont vraiment ouvert leurs portes. Donc, oui, parce qu'effectivement, moi, ce que je trouvais intéressant, en fait, c'est comment dans un concours qui est bourré de codes, un garçon, enfin un personnage va passer à travers ce concours et qui ne veut absolument pas rentrer dans des codes, justement, dans des cases. Et le concours, c'est tout l'inverse, en fait. C'est vraiment très codifié et tout. Et c'est ça qui m'intéressait, voilà, de bousculer un petit peu ça. Voilà. Et du coup, et c'est vrai que au final, vous savez, en France, ça marche très fort encore, Miss France. C'est-à-dire qu'une fois par an, donc il y a ce concours à la télé, ce prime time, et c'est l'un des prime time qui fait le plus d'audience avec les finales de football. C'est incroyable, en fait. Les gens, je pense qu'ils aiment bien encore retrouver ce côté de défendre une région. Voilà, il n'y en a quasiment plus, en fait.
Interville avant, mais il n'y a plus Interville.
Exactement, il y avait Interville avec les Lachettes et maintenant, il n'y en a plus. Donc, du coup, ils sont rabattus sur Miss France.
Voilà,
c'est un gros événement.
Ce que j'ai beaucoup aimé dans le film aussi, c'est la relation qu'il a avec l'ancienne génération de gens qui ont du mal à s'assumer dans leur genre. Et là, je trouve qu'il y a vraiment des beaux moments dans le film, notamment le moment où il a des problèmes d'argent, il décide de s'orienter plus vers la prostitution. Mais d'après l'expérience, on lui dit absolument pas. Et il y a cette espèce de passage de pouvoir. On sent que c'est venu d'un problème. C'est passé d'un problème à un autre problème. On sent que le problème change complètement de génération, en fait.
Oui, en fait, ce moment-là, il est un petit peu… Bon, c'est quand rien ne va plus, c'est-à-dire d'un coup, on est en train de lui faire comprendre que du coup, il est un peu fou, en fait, de faire ça, de faire ce rêve qui n'aboutira jamais, c'est complètement… Et en fait, il y a toutes les illusions qui tombent parce qu'il se remémore que ses parents, en fait, lui disaient que tout était possible. Et en fait, il se rend compte que pas du tout, en fait. Voilà, la société, elle est difficile, elle est dure. Et c'est vrai qu'il a il a cette pulsion qui se dit « je vais aller faire le trottoir » parce qu'en fait, c'est là où on m'envoie. En fait, parce que les personnages différents comme moi, genre ou les transsexuels ou les travestis, fais le trottoir parce que de toute façon, tu ne trouves pas de job, c'est trop compliqué, tu es mis de côté, donc tu es renvoyé. Et du coup, voilà, ce moment-là, il est important parce que justement, comme vous dites, de l'autre génération plus ancienne, qui est une travestie, lui renvoie à la dure réalité, en fait, de se dire tu veux aller travailler, mais toi, tu es tout jeune, tu es tout frais, ok, mais après, si tu rentres dans ce cercle vicieux-là, tu vas te retrouver comme moi 20 ans après à ne pas pouvoir t'en sortir et à valoir aujourd'hui des clopinettes, par rapport à… Donc, oui, c'est un moment… c'est un peu comme une passation, oui, c'est exactement ça. C'est un peu d'une génération à une autre, avec l'expérience de se dire… mais au final, je me rends compte par le film, par l'époque, que les choses ont vraiment quand même changé, beaucoup. Oui. Voilà, aujourd'hui, il y a vraiment… sur les droits aux personnes étrangères ou sur les non-binaires, justement. Et voilà. Et du coup, les choses changent terriblement. C'est-à-dire que ça va à une vitesse, en fait. Je me suis rendu compte, en fait, quand je cherchais au début, justement, le personnage et qu'on faisait un peu un casting sauvage, avant de le rencontrer, je me rendais compte que très jeune, à l'âge de 16, 17 ans, j'ai un film en tête, j'aimerais que ce soit un garçon qui… Pour eux, c'était aucun problème. Ils disaient « Ah ouais, ok, pas de problème. » Enfin, il n'y avait pas… cette génération, elle est complètement différente, même de la mienne d'ailleurs. J'ai 40 ans et du coup, on a été élevé autrement. Donc,
ouais. Ouais, j'ai 46 et je suis d'accord avec vous. Et c'est vrai que ça s'est accéléré dans les 10 dernières années, même les 5 dernières années. Ça a pris une vitesse incroyable, en fait. Et ici même en Australie, c'est un truc qui est hallucinant, la façon dont ça a changé. Vraiment, on a senti un déclic dans la génération.
Ah ouais, c'est incroyable.
Est-ce qu'on peut parler d'Isabelle Nanty? Je la trouve extraordinaire là-dedans. Par contre, vous avez fait un truc super avec elle, c'est que vous ne l'avez pas mise dans des clichés. Il n'y a pas du cliché d'Isabelle Nanty. Est-ce que ça a été un peu compliqué, ça? Parce qu'Isabelle Nanty, elle fait beaucoup d'Isabelle Nanty. Mais là, vous l'avez un peu sortie quand même. Et elle est simplement extraordinaire, en fait, dans ce film.
Isabelle Nanty, c'est une actrice extraordinaire. Donc, elle peut tout faire. Il ne faut pas oublier qu'Isabelle Nanty, elle a été prof conservatoire. Elle vient vraiment ses pièces de théâtre, ses mises en scène sont toujours très pointues. Et c'est vrai que, on l'arrête un petit peu souvent à ses rôles un peu plus caricaturaux, comme dans Tuche, qui font des gros succès. Mais en fait, Isabelle, elle peut tout faire. C'est vraiment une actrice. Et moi, j'avais travaillé avec elle sur mon court-métrage quand j'avais 20 ans, donc il y a 20 ans. Et c'était une rencontre géniale, j'avais adoré. Elle faisait un duo avec Didier Bourdon, des Inconnus, et ça a été vraiment une rencontre géniale. Et je me suis toujours dit, il faut que je travaille avec cette femme, et là, je lui ai proposé, je lui ai dit, Isabelle, moi j'aimerais voir, en fait, justement tout ce côté humain que tu as à travers tes mises en scène, tes troupes. Voilà, elle a beaucoup, c'est elle qui a découvert, enfin, qui a mis en scène Édouard Baird. Enfin, elle a vraiment ce côté, en fait, d'être avec beaucoup de gens de théâtre. Et c'est ce côté troupe comme ça. Je me suis dit, j'aimerais en fait te voir en espèce de madone de cet immeuble, de cette espèce de comment je pouvais dire, comment je disais ça à l'époque, je disais bateau, arche de Noé, enfin je sais plus comment je disais, un espèce de truc comme ça,
auberge espagnole, ça a été noté aussi,
ouais, voilà. Et parce qu'en fait elle a tellement ça de réunir ces gens comme ça tous différents, et je me suis dit voilà, je vais envie de voir ça chez toi, qui est ta partie personnelle, mais du coup j'ai envie de le voir comme ça, et voilà, et puis après je te mets en rôle d'un personnage voilà, qui a une vision qui est une féministe complètement différente de Pascal Arbillot, qui joue la directrice du Comité Miss France, qui est aussi une féministe mais différente. Voilà, j'ai aimé cette idée de ces deux féminismes qui s'entrechoquent, et du coup oui, Isabelle elle réunit les personnes comme jamais, et voir en fait tous ces personnages qu'elle accueille chez elle, tous différents, les sans-papiers, voilà, les étrangers, et en fait je trouvais que ça lui allait très bien, en fait, et elle le sciait très bien, le rôle, parce qu'elle est formidable. Isabelle, j'ai adoré travailler avec elle. Les gens, c'était parfois difficile de garder son sérieux sur le plateau avec tous les acteurs qui jouaient avec elle. Et voilà, parce qu'elle elle devait toujours manger le couscous avec la semoule et le couscous. Il y avait toujours le couscous, qu'on faisait beaucoup les couscous parties, donc. Parce qu'elle adore ça, Yolande. Et du coup, il y avait beaucoup de boulettes et de qui volaient, quoi. À un moment donné, c'était un peu…
on sent que vous reparlez de ce film avec vraiment un grand plaisir. Et pourtant, ça fait un bon moment quand même que vous l'avez filmé. Il est sorti l'année dernière. Ça fait un moment que vous l'avez tourné, écrit, etc. Mais on sent que vous avez le sourire au coin des lèvres quand vous en reparlez quand même. C'est un beau petit
film. Oui, parce que c'est de toute façon… quand je fais un film, de toute façon, je prends énormément de plaisir. Là, en l'occurrence, il est plus frais, mais avec ce film, c'est très particulier ce qu'on a vécu en plus. Parce que voilà, c'est un film qui a eu beaucoup de succès d'estime. Les gens, j'ai fait la tournée avec les acteurs avant de le sortir à travers la France pendant un mois, deux mois presque. Et c'était super. Il y avait beaucoup d'émotions. Et puis, il y a ce Covid qui est arrivé. Donc, du coup, il n'est pas sorti. À une semaine, on décale. On décale en septembre. Et finalement, en septembre, on se dit, bon, ça va mieux. Donc, décalons en octobre parce qu'en fait, ça sera mieux pour le film. Ce sera une meilleure date, proche de Noël. Et batatra, quand on sort en octobre, il reste 8 jours en salle. Et du coup, ça ferme. Donc, oui, il a vraiment une destinée très chaotique. C'est peut-être pour ça que il en est particulier, que du coup j'ai toujours un plaisir d'en parler, parce qu'il y a une espèce de frustration avec ce film. On sentait qu'il y avait quelque chose de très joli avec le public, et c'est pas allé au bout parce que voilà, il n'a pas pu rester en salle parce que ça a fermé ou quoi. Mais du coup, il aura sa carrière à l'étranger, du coup, et après dans les plateformes.
Ouais, sur les plateformes.
Exactement.
Et pour vous, justement, et pour finir, ce Covid, il a changé les choses ou pas? Est-ce que ça a changé en tant que réalisateur? Est-ce que c'est une parenthèse? Est-ce que ça a permis de la créativité? Est-ce que c'est quelque chose qui, aujourd'hui, est-ce que vous avez assez de recul par rapport à ça, en se disant, on a quand même vécu quelque chose que vous souhaiteriez, ou en tout cas, dire que c'est quelque chose qui a marqué une génération ou plusieurs générations au total?
Ça, c'est évident. Ça a marqué surtout les jeunes. Voilà, la jeune génération qui, d'un coup, aujourd'hui, avoir 18 ans avec le Covid, où j'ai eu beaucoup de témoignages de jeunes qui disent « Ah, je devais fêter mon anniversaire, mes 18 ans, c'est la première fois que j'allais en boîte. Je connais pas, j'ai pas pu. » Et du coup, il y a toute une génération c'est très frustrant, c'est très compliqué. Je dis toujours, ce qui me fait le plus peur dans la vie, c'est la déshumanisation, et j'ai l'impression qu'on est en train de enfin c'est un pas de plus vers la déshumanisation, parce que parce que dans les années 80, on a le sida qui est arrivé. Aujourd'hui, on mélange deux corps, on fait l'amour avec du plastique, avec un préservatif. Et maintenant, on se met des masques, on se met un bout de tissu, on ne peut plus s'embrasser. Et c'est vrai que c'est très violent. C'est vrai que c'est quelque chose de très qui a marqué beaucoup. Maintenant, en termes de créativité et pour moi en tant que réalisateur, je ne pense pas que ça a changé grand-chose. C'est plutôt le monde qui change avec les pensées et parfois, quand on écrit quelque chose, réfléchir à deux fois si on doit l'écrire ou pas, parce que comment ça va être pris. C'est surtout ça, en fait. C'est surtout sur le langage aujourd'hui qui est complexe parce qu'en fait, on sent qu'on a plus de liberté. On est dans une démocratie où d'un coup, on est censé avoir beaucoup plus de liberté. Et au final, on a l'impression qu'on en a de moins en moins, en fait, qu'on est limité à se dire on peut plus rire de tout. Alors évidemment, il y a des choses qui sont remises en question, qui sont très bien d'ailleurs. Mais après, faut pas aller dans les extrêmes non plus. Voilà, je pense qu'il faut, c'est un bon équilibre à trouver. C'est plutôt de ce côté-là, parce que la COVID, au final, pour nous, les acteurs ont beaucoup travaillé, on a beaucoup tourné, parce qu'en fait, il fallait bien qu'il y ait du contenu, en fait, pour tous ces gens qui étaient chez eux enfermés à regarder. Voilà. Alors, c'est pour le cinéma que ça a changé. Voilà, le cinéma. Clairement, ça a changé les salles de cinéma. Voilà, ça, c'est une évidence. Après, le contenu en lui-même de raconter des histoires, ça sera peut-être moins dans une toile au cinéma, mais ça sera par d'autres biais. Voilà. Mais,
Allez, je vous donne, on est dans l'ascenseur, je vous donne une minute pour me vendre votre film. Comment vous résumez ça pour le public, pour dire on est dans l'ascenseur. Et voilà, faut me dire pourquoi on va voir votre film.
Ok, on est dans l'ascenseur, une minute pour aller voir Miss. Alors, aller voir Miss, c'est se faire du bien au cœur, c'est croire en l'humanité, c'est montrer que tous les rêves sont possibles, et même quand ça nous paraît le plus incroyable et le plus difficile, c'est renouer avec la fraternité, en fait. C'est se rendre compte qu'en fait, quand on s'aide, quand on s'entraide et quand on est entouré d'amour, et ben la vie est belle. Donc voilà, ce film, il prône toutes ces valeurs-là, sur la tolérance, la différence et surtout l'acceptation d'être soi. Donc avoir le courage d'être soi aujourd'hui, c'est difficile, mais mon personnage, lui, il l'a eu. Aller voir ce film, je pense que vous pouvez passer un beau moment d'humanité.
Impeccable. Merci Ruben Albens.
Merci, merci à vous.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Il est 13h55 sur SBS French, c'est l'heure du rappel des titres. Novak Djokovic toujours à l'isolement dans un hôtel de détention pour demandeurs d'asile à Melbourne. Le numéro 1 mondial devrait savoir lundi s'il peut rester à Melbourne et disputer l'Open ou s'il doit rentrer en Serbie. Le cap du million d'Australiens atteints du Covid-19 en passe d'être atteint dès lundi. À mesure que les cas augmentent, les restrictions se durcissent à travers les États et les tests rapides antigéniques ont désormais la même valeur que les tests PCR. Emmanuel Macron persiste et signe. Le président français dit assumer totalement ses propos sur les personnes non vaccinés, sans pour autant les réitérer. C'était il y a 7 ans et un jour les attentats sanglants dans les locaux du journal satirique Charlie Hebdo. 12 personnes assassinées, un hommage intime et privé leur a été rendu à Paris. Et enfin, plusieurs jours de violence et des dizaines de morts au Kazakhstan. La discussion entre le pouvoir et les manifestants semble impossible, surtout que le président autorise la police à tirer à vue. C'est la fin de cette édition française. Je suis Marianne Murat. J'ai été très heureuse de passer cette heure avec vous. Merci de votre fidélité. Pardon. Votre prochain journal, c'est demain avec Jean-Noël Ducasse. Même fréquence, même heure. Bonne journée.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.